sur la clé des ondes. Bienvenue dans notre plat de résistance. Il y a 4 ans, c'était le soulèvement des Gilets jaunes. C'était le samedi 17 novembre 2018. On est le jeudi 17 novembre 2022. Et pour cet anniversaire, avec l'association Pourquoi Pas 33, on est au colloque de la Valse des Ronds-Points, au Cahier de la Colère. Hier, on était aux archives départementales. Aujourd'hui, jeudi, au musée d'Aquitaine. On vous invite d'ailleurs à venir participer à ces échanges qui ont lieu encore toute la journée. On a installé, nous, notre studio sur place dans le hall du musée d'Aquitaine et on va donner la parole aux acteurs et aux actrices de ce colloque et de ce mouvement des Gilets jaunes jusqu'à 13h dans le plat de résistance. On commence par quelques infos en bref, avec une info d'ailleurs qui concerne la répression des mouvements sociaux. C'est une commande de grenade passée par le gouvernement. Ce 10 novembre, l'État a fait paraître un appel d'offres pour la fourniture de grenades de maintien de l'ordre et d'accessoires destinés aux services de police nationale et de gendarmerie nationale pour un budget de 38 millions d'euros, excusez du peu, et ça concernerait 4,5 à 13,4 millions de grenades pour les 4 années à venir. C'est, nous dit le site Contre-Attaque, la plus grosse commande d'armement de maintien de l'ordre jamais passée par l'État. Une autre info, c'est ce dimanche 20 novembre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le Rocher de Palmaire et SOS Méditerranée organisent une journée solidaire sur l'urgence humanitaire en Méditerranée de 14h à 22h30, donc au Rocher de Palmaire. C'est une journée qui est baptisée Jeunesse naufragée, jeunesse engagée, et qui se clôturera par un concert du groupe Feu Chatterton, dont les recettes seront reversé à SOS Méditerranée. Voilà pour les infos en bref. Et on est donc dans le hall du musée d'Aquitaine pour suivre ce colloque de la Valse des Ronds-Points au Cahier de la Colère. Alors, il y a plein de monde autour de la table. On va commencer avec toi, Jean-Pierre. Jean-Pierre Lefebvre, animateur de Histoire de voir, Histoire au pluriel, le mardi à 13h et l'un des organisateurs de ce colloque. Salut, Jean-Pierre.
Salut.
Alors, peut-être un mot sur voilà comment ça se passe depuis hier. Est-ce que les discussions sont à la hauteur de vos attentes, Jean-Pierre?
Eh ben, les dépasse même, parce que d'abord on fait des belles rencontres, d'abord d'amis qu'on connaît depuis un certain temps, et puis de nouveau, et puis l'intérêt est là puisqu'il y a quand même du public, et la clé des ondes et de partenaires et tout au long de ces deux jours nous accompagne. On te remercie d'ailleurs d'être là, Baptiste.
Alors peut-être fais-nous un petit rappel de ce dont il va être question cet après-midi et puis ce soir également avec la soirée à la librairie Nakaneuil.
Oui, tout à fait. Donc je vais être assez rapide pour laisser la place aux autres intervenants. Donc on a décidé de faire cette deuxième journée sous la forme d'atelier, puisque on va aborder trois points importants qui ont traversé le mouvement des Gilets jaunes. C'était la démocratie, les violences et puis ce qu'on appelle les convergences. On met des S à tout ça. Alors pas sur la démocratie, parce que pour nous il n'y en a qu'une. Il y a le débat qui a été amorcé hier et qui a traversé la journée d'hier dans le cadre des restitutions des cahiers de doléances. Là on va la développer. On commencera cet après-midi par l'atelier sur les violences et la répression sous diverses formes, puisqu'il y a la répression physique dans les manifestations, la répression judiciaire et financière qui se met en place. Et on en parlera, on développera ce sujet-là sans penser bien sûr en faire le tour, puisqu'il y a encore des camarades gilets jaunes qui sont en prison à ce jour et des suites du mouvement. Et puis beaucoup d'entre eux ont été taxés, j'ai à côté de moi Cali qui en parlera éventuellement. Et puis l'atelier convergence, eh bien avec tu le rappelais François, qui est un ami de longue date et qui était secrétaire de la FSU et qui parlera pour introduire bien sûr ce travail sur les convergences qui ont existé à certains moments, pas forcément dans la réciprocité, c'est ce qu'on développera. Je voulais revenir sur ce matin où il y a eu une introduction qui a été faite. Je rappelle que c'est dans le cadre de la quinzaine de l'égalité que se tient ce colloque. On remercie la mairie et Olivier Scott tout particulièrement, qui nous a expliqué ce matin que c'était un long combat de pouvoir faire adopter ce projet, je crois, c'est ça.
Donc Olivier Scott qui est adjoint à...
l'égalité, alors jouons au maire bien sûr, à l'égalité.
La lutte contre toutes les discriminations exactement. Et chargée du handicap.
C'est ça. Et donc c'était un débat politique au sein de la mairie. On est très content de la, que ce débat ait lieu et que surtout la mairie se soit appuyée sur ses propos pour pouvoir nous soutenir et nous la remercions. Et donc ce matin, il y avait des témoignages, un témoignage, bilan, plus que témoignage d'ailleurs, des gilets jaunes du collectif avec lequel, des collectifs avec lesquels nous travaillons. Et en fait, on a l'impression d'avoir réussi un peu notre pari, mais la journée n'est pas finie. C'est-à-dire de pas, à la fois, pas mélanger, mais faire que des universitaires qui ont travaillé sur la question et des gilets jaunes qui ont, se sont battus et se battent encore sur les revendications qu'ils exprimaient, eh bien, se réunissent, travaillent, réfléchissent ensemble, et c'est en cela que le mouvement n'est pas mort.
Très bien, merci Jean-Pierre. Alors on va enchaîner peut-être et commencer avec les deux intervenants qui ont parlé ce matin et hier de la question des médias et de la question des réseaux sociaux. À ma droite, Pascal Blanchard, professeur en sciences de l'information et de la communication, si je me trompe pas, Pascal, bonjour.
Bonjour, c'est Pascal Marchand. Pascal
Marchand,
c'est un autre.
C'est un autre, effectivement. Et puis à ma gauche, bam, si je retrouve mes notes, tu vas te présenter toi-même, ce sera beaucoup plus simple et clair.
Bonjour à toutes et tous, Laurent Thionquet.
Et toi, tu es ?
Je suis enseignant-chercheur contractuel à l'Université de Lille et membre du laboratoire d'études et de recherche appliquées en sciences sociales, qui est le laboratoire également de Pascal Marchand.
Alors, Pascal Marchand, hier, sur la médiatisation, tu es revenu sur la médiatisation des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui, toi, te semble important à signaler, à résumer sur cette question-là, de la manière dont les Gilets jaunes ont été médiatisés et de leur rapport aussi aux médias ?
Alors, nous, notre équipe, elle est spécialisée dans l'analyse des communications des mouvements sociaux, des controverses sociales et politiques. Depuis longtemps, on commençait avec le traité de constitution européenne, à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Et bien sûr, quand les réseaux sociaux sont arrivés, ça a constitué un véritable bac à sable pour nos outils, parce qu'on développe aussi des grosses machines informatiques pour analyser des très grandes masses de données. Et donc, une équipe s'est constituée très vite, hein, et là c'est Laurent qui en parlera mieux que moi, mais autour de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, au départ Facebook d'ailleurs, et donc qui annonçait que ce mouvement des Gilets jaunes, il provoquait quelque chose qui n'était pas comme d'habitude, hein, et il y avait quelque chose de nouveau. Donc c'est une équipe surtout de jeunes chercheurs qui s'est emparée de cette question-là. Moi j'y suis arrivé après pour analyser la communication des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, il y a effectivement le mouvement a démarré, et quand il a démarré, il a été médiatisé. Et donc on a aussi analysé toute la presse, l'intégralité de la presse, plus de 170 000 articles de la presse francophone qu'on a analysé avec nos machines pour essayer de voir comment s'était passée cette médiatisation, comment finalement les médias avaient construit cet objet nouveau, hein, que je qualifiais d'un peu d'ovni médiatique et politique hier, c'est-à-dire un objet dont on ne savait pas trop quoi en faire. Voilà. Donc il y a eu plusieurs étapes de médiatisation, on a essayé de le comparer avec ce qu'on connaissait, par exemple mai 68, mais ensuite on a aussi essayer de l'inscrire dans des mouvements politiques actuels. Est-ce que c'est un mouvement d'extrême gauche, d'extrême droite ou d'ailleurs? Puis ensuite, on a essayé de les qualifier socialement, et notamment cette qualification sociale ou sociologique a amené à cette fameuse phrase, hein, la fin du mois contre la fin du monde, qui a été une très belle phrase, tellement belle que j'aurais aimé la trouver moi-même. La seule chose, c'est que très vite, les collègues qui analysaient Facebook et nous-mêmes qui avons analysé les médias et le grand débat, enfin le vrai débat des Gilets jaunes, on s'est aperçu qu'elle était fausse.
Et pourquoi ?
Parce que très très vite, alors au départ c'est vrai que les premières revendications des Gilets jaunes, et ça c'est plutôt Laurent qui en parlerait, mais tournaient autour de carburant, d'aspects comme ça, et donc on les a très vite, et de niveau de vie, hein, de ressources, et on a très vite essayé de les enfermer là-dedans, mais finalement les considérations écologiques n'étaient pas loin, et notamment pour ma part, dans mes propres analyses, quand j'ai analysé le vrai débat des Gilets jaunes, il y a une énorme quantité de contributions qui ont trait à l'écologie, donc à des questions de transport, d'énergie d'une part, et puis d'autre part d'agrobiologie, de circuits courts. Et donc ces revendications-là finalement sont arrivées très très vite, sauf que elles allaient mal dans la catégorisation médiatique qui était destinée à opposer un petit peu deux catégories. encouragé par le gouvernement, Emmanuel Macron qui reprend cette phrase fin du mois, fin du monde, et j'allais dire peut-être heureusement qu'Emmanuel Macron l'a reprise, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une véritable convergence entre les mouvements gilets jaunes qui ont repris le slogan pour dire fin du mois, fin du monde, même coupable, même responsable, même combat, et du coup les marches pour le climat qui ont aussi repris ces slogans-là. Et alors ça a été compliqué, on en discutait, parce que moi je travaille sur des données numériques et je ne suis pas au cœur des manifestations, et j'en discutais avec des gilets jaunes ce matin qui me disaient ça n'a pas été aussi simple que ça sur place, hein. Les manifestations n'ont pas convergé tout de suite, il y a eu de la négociation et il y a eu de la tension. N'empêche qu'au niveau des produits des produits de gilets jaunes qui tendaient à objectiver ce débat, c'est-à-dire en faire un débat programmatique qui établisse un vrai programme politique, les considérations écologiques étaient extrêmement présentes, et du côté des marches et des mouvements climatiques, les revendications gilets jaunes en faveur d'une prise en compte d'une meilleure participation politique, d'une rééquilibration des ressources, en justice sociale, justice économique, fiscalité, etc. Tout ça était pris en compte.
Laurent Thionquet, de ton observation des réseaux sociaux, tu confirmes ce que vient de dire Pascal, voilà, sur ces différents mots d'ordre qui étaient présents et ces revendications des gilets jaunes?
Oui, ce qu'on a observé très rapidement, ce sont des revendications qui sont structurées. Contrairement au discours éculé dans les médias, qui a été une injonction ensuite vis-à-vis du mouvement, on veut connaître vos revendications. Bon, en vérité, ces revendications, elles sont apparues assez nettement. D'abord autour de revendications de type démocratique, puis ensuite autour de revendications qu'on pourrait qualifié de plus sectoriel, mais qui ont tout trait finalement à la justice sociale et fiscale. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer ce matin, c'est comment les gilets jaunes ont, par la communication, les réseaux sociaux, ont dû composer aussi avec la médiatisation qui était la leur dans les médias dominants, et comment ils ont intégré ces représentations, comment dans une certaine mesure ils ont tenté de les dépasser.
De quelle manière? Comment ça se passe, cette tentative de dépassement de l'image qui vous est donnée dans les médias dans le cadre d'un mouvement comme celui-ci?
Ça passe souvent déjà par des pratiques qui sont automédiatiques. Typiquement, ce qu'on a pu observer, mais aussi nos collègues du LASP, hein, c'est des formes d'invisibilisation en fait de la parole gilet jaune dans les médias. On convoque des experts pour parler à leur place, là où justement un certain nombre d'initiatives se sont déployées et où les gilets jaunes s'exprimaient en leur nom propre. Ce qui caractérise, je crois, vraiment ce mouvement. C'est un mouvement expressiviste où les gens tiennent, les militants tiennent à exprimer leur point de vue, leur expertise d'usage. Et ils considèrent, à juste titre, qu'elle est valable politiquement. Mmh. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui peut expliquer, je crois, le succès de certains entrepreneurs de mobilisation, comme Maxime Nicole, typiquement.
Qu'est-ce que ça veut dire, entrepreneur de mobilisation?
C'est des figures, si vous voulez, clés, on va dire, du mouvement, même si il y a évidemment tout un enjeu autour du porte-parole, comme dans tout un tas de nouveaux mouvements sociaux. Maxime Nicole est un entrepreneur de mobilisation à part entière, puisque avant d'être connu en son nom propre, c'était Flyrider Info Blocage. Donc c'est vraiment un acteur réseau qui donnait des informations transversales à l'ensemble de la mobilisation. Le recours au live, soit au cœur des ronds-points, lors des manifestations dans les centres-villes, ou alors tout simplement ces lives selfie vidéo, comme dit notre collègue Fabien Grandjean, ont permis au mouvement d'avoir une voix et donc de faire entendre et ses revendications et son rapport spécifique aux politiques.
Alors sur la question, peut-être pour en venir jusqu'au vrai débat, sur le débat tel que toi tu as pu le voir sur les réseaux également, ça fait partie de cette expression, de cette expressivité de débattre en permanence et de pas forcément être d'accord, mais de dire on est dans un mouvement, mais on continue à débattre de plein de questions.
Ça dépend des plateformes. C'est difficile, 4 ans plus tard et par le haut, de répondre à cette question. Vous avez des plateformes comme Twitter où la culture est celle de l'antagonisme. Notre collègue Romain Badoir parle de brutalisation des échanges. Bon, on n'est pas tant dans la co-construction ou dans la délibération que dans l'affrontement. Nous, ce qu'on a pu observer quand même sur un certain nombre de plateformes, et c'était notamment le cas sur la plateforme du Vrai Débat, c'est des échanges argumentés, structurés. Qui vise à dégager un intérêt spécifique du collectif.
Pascal Marchand, alors sur cette question du vrai débat, moi j'avoue que j'étais passé à côté, on en a parlé hier et je ne savais pas ce que c'était le vrai débat. Alors peut-être tu peux commencer par nous dire ce que c'est et qu'est-ce que toi tu as pu y observer.
Qui sait ce que c'est que le vrai débat ? Effectivement, en gros, je vais essayer de résumer très très rapidement cette affaire. Donc quand Emmanuel Macron décide de lancer une consultation nationale, en gros, pour mettre fin au mouvement des Gilets jaunes, soyons clairs. Il lance un grand débat national. Ce grand débat national, il le confie à un organisme d'État qui est fait pour ça, qui s'appelle la Commission nationale du débat public, qui est présidée à l'époque et toujours par Chantal Jouanneau, ancienne ministre du gouvernement Sarkozy, qui s'empare de ce grand débat national et décide d'en poser le cadre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça devrait être ? Et elle l'impose de façon assez évidente et très claire ce que ça ne devrait pas être. Et elle a clairement en tête ce que le gouvernement veut en faire, c'est-à-dire un faux débat pour mettre fin à un mouvement social. Et du coup, Chantal Jouanneau, alors il y a aussi toute une affaire autour de son salaire, etc., est désinvestie de cette affaire-là. La CNDP elle-même est désinvestie du débat. Et du coup, le débat va être récupéré par deux ministres référents du gouvernement, quatre garants qui vont être nommés par le gouvernement sur une plateforme et dont les résultats vont être analysés par un institut de sondage proche du gouvernement qui va sous-traiter une partie à une boîte d'intelligence artificielle. Et du coup, les Gilets jaunes vont se dire « on est en train de nous piquer notre débat ». Et donc vont reprendre l'initiative en disant « mais nous, l'idée du débat, ça nous plaisait bien ». Par contre, ça nous plaît pas du tout qu'il soit confisqué par le gouvernement et des instituts de sondage. Et du coup, ils reprennent la même plateforme que le Grand Débat National et ils retournent vers la Commission nationale du débat public qui avait publié un rapport sur qu'est-ce que devrait être le Grand Débat National. Et donc, ils se calquent sur ce rapport en disant on voudrait travailler avec des universitaires pour le traitement de données, avec des moyens qui ressemblent aux pratiques habituelles des gens à l'heure actuelle sur le web 2.0, hein, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'embêter à répondre à des questions en mettant des croix dans des cases, mais qui veulent directement dire ce qu'ils ont envie de dire, éventuellement en likant ce qui a été dit par d'autres, ce qui n'était pas du tout fait par le grand débat national. Et donc, il crée ce vrai débat qui va quand même ramener quelque chose comme 19 000 contributeurs. Alors, 19 000 contributeurs à côté des 160 000 ou 170 000 du grand débat, ça peut paraître tout petit, mais il faut se souvenir que le grand débat sur l'identité nationale de Sarkozy et Besson, c'était 1 800 000 simplement. Hein. Donc là, on a une importance de 4 fois plus grand.
Alors, on va continuer à t'écouter. Juste après, on donne juste la parole un instant à Katia Kukafka du musée d'Aquitaine qui doit nous laisser juste après. Bonjour Katia.
Bonjour.
Tu es vice-directrice adjointe du musée d'Aquitaine, si je ne me trompe pas. Peut-être un mot sur voilà pour quel sens ça fait pour vous au musée d'Aquitaine. Hier, on était aux archives où les cahiers de doléances sont déposés. Il y avait ce lien direct. Pour vous au musée d'Aquitaine, c'est quoi le sens à accueillir un colloque et des discussions comme celle-ci aujourd'hui ?
Mais en fait, notre programmation pourrait sembler assez éclectique. On était hier soir avec Aurélien Michel pour parler de la notion de race et de la construction historique de la race. On sera samedi en train de danser les danses compas d'Haïti dans ce même auditorium. Et aujourd'hui, enfin, moi, ça fait sens et vraiment, je l'ai dit ce matin, je remercie beaucoup Jean-Pierre et Pierre de nous avoir associés. On est un musée de société. On est un musée où on doit pouvoir représenter aussi la diversité des voix, la diversité des groupes qui font société. Là, on a clairement un mouvement qui a marqué profondément ces dernières années. Nous, il faut qu'on en rende compte. Alors, on en rend compte avec vous aujourd'hui et hier. J'espère qu'on en rendra compte aussi à l'avenir dans nos salles d'expo. Et c'est aussi un peu l'appel que j'ai lancé ce matin. Je pense que les cahiers de doléances, c'était une obligation réglementaire pour les services d'archives de les collecter. Maintenant, à nous de faire un travail qui est plus un travail, là, cette fois, volontaire, hein, mobilisateur, avec les Gilets jaunes, avec les chercheurs, pour collecter aussi des témoins matériels qui auront leur place nécessairement un jour dans un parcours historique sur l'histoire de la ville, l'histoire de la région, particulièrement à Bordeaux.
Cette collecte de témoignages-là, elle a commencé déjà
non,
pour vous ?
Pas non, pas du tout. Elle n'a pas du tout commencé. Il faut qu'on s'y mette. Je t'avoue, je ne sais pas encore trop par quel bout prendre les choses, mais je compte beaucoup sur justement les gilets jaunes et les chercheurs. Je crois qu'on a, on a déjà parlé avec Magali de
Magali
de la Souda, d'aller aussi voir du côté du MUCEM, parce que je pense que là aussi, du grand musée qui est à Marseille, hein, qui est un peu notre tête de réseau pour nous, les musées de société. Je pense qu'on doit être assez nombreux en fait aux quatre coins de la France dans les musées de société à se dire qu'il faut le faire. Ça a été fait par exemple pour le Covid. Hein, il y a eu voilà sur les périodes de confinement, il y a eu des collectes qui ont été initiées. On sait comment voilà, on sait comment s'y prendre. Il faut juste que quelqu'un démarre. Hein. Donc ça fait voilà. Et puis je voulais aussi dire, on parle beaucoup de convergence des luttes. Nous, ce qui nous importe aussi ici, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement l'intersectionnalité. Mais c'est un mot, enfin. Pompeux, non, en fait, non. C'est pour moi un mot tout à fait essentiel. C'est-à-dire que les luttes, elles sont multiples et quand elles se croisent, elles sont encore plus fortes. Mmh. Ici, on parle de lutte contre les discriminations, contre toutes les formes de discrimination. On parle de lutte pour l'égalité et voilà, cette égalité, elle passe aussi par la reconnaissance de différences qui sont multiples et on essaie de s'y employer vraiment quotidiennement dans ce musée.
Très bien, merci beaucoup Katia.
Merci
Katia,
à toi,
directrice adjointe du musée d'Aquitaine. On te laisse poursuivre ton emploi du temps et puis on revient alors à ces discussions sur le grand débat et sur le vrai débat surtout et sur aussi peut-être ce qu'il en reste aujourd'hui et quand vous voyez voilà les discussions qu'il peut y avoir aujourd'hui, peut-être qu'est-ce qui a attiré à garder de ce grand débat, qu'est-ce qui vit encore comme débat et comme sujet de débat entre les personnes présentes, Pascal.
Oui, je me suis peut-être un petit peu emmêlé les pinceaux sur les chiffres. Alors, le vrai débat, c'est 119 000 hein, contributions. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Donc, on les fait passer, ça donne une quantité de texte de 7 millions de mots, hein, ce qui est assez considérable. Et donc, on a pu isoler un petit peu les thématiques de ce débat. La première chose qui nous a étonné, c'est que c'est un débat, et je reprends ce que disait Laurent tout à l'heure par rapport à la brutalisation habituelle des conversations sur Internet. Là, au contraire, c'est un débat de très haute tenue, où il y a très peu d'invectives, où finalement, un certain nombre de choses auxquelles on pouvait s'attendre, de remise en cause, comme on dit, ad nominem de Macron, etc., sont absentes. Les gens ont joué le jeu de construire un programme politique dans ce vrai débat des Gilets jaunes. Et donc, il y a très peu de considérations. Le mot Macron lui-même ne structure pas une classe thématique. Donc on est sur vraiment l'établissement d'un programme, alors avec des aspects politiques. Ce que je vais vous dire va vous paraître d'une grande banalité maintenant, mais à l'époque, ça nous a servi un petit peu de structure et on a pu renvoyer aux Gilets jaunes la structure de l'argumentation pour qu'ils construisent éventuellement leur programme avec les assemblées des assemblées et puis d'autres procédures. Mais en gros, il y a un gros bloc politique avec le RIC, hein, qui est effectivement une grosse classe, mais pas le RIC en tant que fétiche, en tant que symbole, mais le RIC en tant que réalisation concrète d'une forme de gouvernance. Mmh. Et puis, des aspects sur le contrôle du Parlement et des parlementaires, un aspect sur la prise en compte du vote blanc, ça c'est la partie politique. Sur la partie plus économique, on va voir des choses sur la fiscalité, revenir à une justice fiscale. Je me souviens d'une phrase qui était que les gros payent gros et que les petits payent petits. Et donc la question de l'ISF, la question aussi des ressources liées au travail, augmenter les salaires et les retraites, la question de l'aide sociale, des questions sur l'éducation, des questions sur l'Europe, des questions sur la police et la justice. Bref, à l'issue du vrai débat et avec les analyses qu'on pouvait en proposer, il y avait la trame de ce qui pouvait devenir un programme, en tout cas une base de discussion. Hein, pour les Gilets jaunes. La seule chose, c'est que les médias continuaient à ne traiter le problème des Gilets jaunes que sous l'angle de la violence, de la répression, et puis éventuellement aussi d'un certain nombre de caractéristiques de certains leaders ou de certains... On parlait de micro-trottoirs. Et il me revenait une chose, tu disais tout à l'heure... que tu ne connaissais pas le débat et je disais qui connaissait le vrai débat. Ouais. Et je me souviens d'un micro-trottoir de BFM où on demandait à un gilet jaune s'il allait participer au vrai débat et le gilet jaune répondait c'est n'importe quoi ce truc-là, le débat il est dans la rue. Et en fait le gilet jaune lui-même ne le connaissait pas, il croyait qu'on lui parlait du grand débat national et il lui-même ne savait pas qu'un vrai débat était en train de se construire. Sinon on aurait pu parier qu'il ne l'aurait pas traité de cette façon-là.
Laurent Thionquet, peut-être je sais pas si tu as des compléments à apporter à ce que vient de dire Pascal. Et sinon, il y a tout à l'heure un gilet jaune qui passait qui me disait c'est super ce qu'il vient de dire, ça va nous servir à nous pour mieux comprendre, mieux savoir comment on doit communiquer via les réseaux sociaux pour être plus juste et pour mieux parler aussi au grand public. Alors je sais pas si tu as des choses comme ça, des clés à apporter à la suite de ton travail.
Je sais pas, en tout cas ça fait plaisir, mais concrètement je sais pas si ça pourrait être appropriable et utile. Sur le vrai débat national, pour compléter peut-être ce que disait Pascal, il y a eu des propositions quand même qui étaient extrêmement intéressantes et qui n'ont pas été audibles. Des propositions sur les services publics, une grande importance accordée aux contributeurs à cette notion, l'agriculture de proximité. Ce sont des éléments qui n'ont pas essaimé, qui n'ont pas réussi à pénétrer l'espace public dominant. Et je crois que c'est regrettable parce que ça aurait permis de déstabiliser aussi l'image stéréotypée des gilets jaunes.
Ça, c'est un pourquoi ça n'a pas pu entrer dans le débat public? Qu'est-ce qui a fait que voilà, ça n'a pas eu cet accès-là? Est-ce qu'on peut avoir des idées?
C'est très compliqué d'y répondre. Il me semble que le grand débat national a été un excellent outil de communication politique. Mais que ces résultats concrets n'ont pas apporté grand-chose. Peut-être pour monter un peu en généralité, après les gilets jaunes, le grand débat, le vrai débat, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, qui est une expérience remarquable de démocratie participative procédurale. Quels sont ces résultats et cette transcription concrète dans l'action publique? La question reste entière. Donc dès l'instant où le grand débat national lui-même n'apporte pas de changement politique d'ampleur, comment le vrai débat, dans son côté, pourrait provoquer des changements importants? C'est toute la question.
Je t'ai coupé, tu avais peut-être d'autres choses à dire ou non?
Non, parce que ce que j'ai essayé de faire ce matin, c'est de remettre en perspective nos travaux, effectivement, sur un certain nombre d'utilisations des réseaux sociaux numériques, Facebook notamment, en les complétant avec des analyses différentes méthodologiquement, d'autres terrains, des analyses peut-être plus qualitatives, qui ont été menées ensuite par certains de nos collègues en sciences de l'information et de la communication et en sciences politiques. Ce que j'ai essayé de montrer ce matin, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est que cette communication militante sur les réseaux sociaux, elle prend acte de la représentation des gilets jaunes dans les médias, qu'elle essaie de se concentrer sur ce qui fait, je dirais, sa caractéristique première, c'est-à-dire sa passion démocratique, mais qu'ensuite, cette communication, elle laisse entrevoir ce qui peut-être d'une part des lignes de fracture à l'intérieur du mouvement, d'autre part une forme d'hétérogénéité idéologique qui est la sienne, et notamment d'une part le rapport à la violence qui est bien sûr dans nos analyses textuelles dénoncé, combattu, mais qui sur d'autres terrains observés par nos collègues, les images de violence peuvent glisser vers du riot porn. Donc vers une forme d'esthétisation,
une sorte de d'esthétisation,
De la violence. Donc ça, c'est une question qui mérite peut-être d'être regardée en face entre guillemets par les gilets jaunes, d'une part, et d'autre part aussi le rapport aux médias, puisque les gilets jaunes ont développé et le font encore aujourd'hui, on les trouve sur YouTube, une grande créativité sur le plan automédiatique, mais qui s'appuie aussi beaucoup sur la médiation journalistique. Et donc les gilets jaunes doivent aussi se questionner sur leur rapport aux journalistes, peut-être sortir d'une forme de fétichisme de la critique des médias, de la haine de la figure du journaliste, pour regarder plutôt comment des articulations originales, des agencements peuvent exister entre le travail des médias traditionnels et leur pratique automédiatique. Donc,
Très bien, mais merci beaucoup à tous les deux, Pascal Marchand et Laurent Thionquet, pour ces apports super intéressants. On va peut-être faire réagir directement à Gilet Jaune qui est là avec nous, André. Bonjour André, je te laisse prendre un micro et te présenter peut-être toi d'où tu viens.
Oui, bonjour. Donc je suis Gilet Jaune, bon vous allez dire que je suis peut-être daltonien parce que le mien est orangé. Mais je vais vous donner les raisons de suite, comme ça sera plus simple. Depuis le premier jour, ça fait 4 ans, je suis donc de Marmande et au rond-point de Saint-Mazan. Donc c'est la sortie de l'autoroute direction Marmande. Voilà.
Et alors c'est un groupe de gilets jaunes qui continue à se réunir, c'est ça, tous les dimanches, vous allez sur le rond-point ?
Oui, non seulement tous les dimanches. Bon, déjà au niveau départemental sur le Lot-et-Garonne, on est le seul qui n'est jamais arrêté. Voilà. Donc, en général, on se réunissait donc les mercredis. Le samedi, on était plutôt des itinérants. Et on le sera encore samedi prochain, donc c'est tout proche. Donc, on sera à Toulouse.
Okay.
Donc, régulièrement, donc, de toute façon, on était... bon, quand il y avait les manifs sur Paris, on y était. Après, on a fait avec tous les gens de Bassens, le groupe de Bassens. Bon, on les voyait régulièrement. Les ronds-points de Sainte-Eulalie. Donc, on a participé aussi au blocage qu'il y a eu au niveau, comment dirais-je, des entreprises à un certain moment avec les syndicats, les groupes de Bassens, Libourne, on a fait tout ça. Moi, je me suis vu en dehors donc du Marmandais d'être 6 jours ou 7 sur effectivement les ronds-points des environs, que ce soit donc à Agen, Toulouse, Bordeaux, Libourne ou autre. Donc notre groupe, on n'est pas nombreux, mais on a toujours tenu le coup et on continue. Et la question de mon gilet, donc c'est que le premier jour, on était sur les ronds-points, donc ce que l'on appelait le rond-point du Leclerc, du centre Leclerc à Marmande. Bon, on était peut-être 300 personnes. J'étais donc y a plusieurs embranchements qui arrivent sur ce rond-point. Et moi, je suis arrivé avec ce gilet orange. Donc, bon, il y a des collègues qui étaient là avec des gilets jaunes, ils m'ont posé la question, pourquoi ? Et j'ai dit, voilà, il y a 50 là sur ce terre-plein, si éventuellement il y a une exaction, on va pas dire, c'est un des 50 qui sont là. Moi, j'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais.
D'accord.
Et donc, ils étaient tous au courant. Non seulement ils étaient au courant, mais les flics aussi. Voilà, comme ça, au moins, c'était clair pour tout le monde. Donc, ils savaient très bien que... voilà. Donc, on continue, effectivement. Voilà.
Très bien. Alors, on va accueillir une autre gilet jaune, Christine. Et la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux. Alors, il y avait cette question de le mouvement n'est pas mort. Il en était question ce matin. Tu l'as redit, Christine. Le mouvement n'est pas mort, mais n'empêche que c'est quand même rare les endroits où il demeure aussi fort que, par exemple, ce que tu nous racontes là, André. Qu'est-ce qui explique ces endroits et ces lieux et ces espaces aussi de discussion et de voilà, qu'est-ce qui fait que le mouvement est encore vivant et où est-ce qu'il est encore vivant ? Peut-être première question à tous les deux, André, un mot ?
Oui, à nous de toute façon, on est un noyau effectivement, donc. C'est une famille, d'une certaine manière. Donc, on espère effectivement que dans bien des endroits, il y ait des résurgences. On le ressent un petit peu parce qu'il y a des endroits où ça a repris, malgré effectivement tout ce qui s'est passé, tout l'arsenal qui a été mis en place par le gouvernement pour nous empêcher de faire effectivement ce qu'on a fait depuis 4 ans, que ce soit donc sur un plan physique. Puisque donc les coups de matraque, on les compte pas. Sur le plan financier, c'est pareil. Moi, j'ai eu plusieurs procédures. Déjà, je dépasse les milliers d'euros et même un peu plus, même dizaines. Et donc, au contraire, je pense que personnellement, moi, ça. Ça me motive d'autant plus. Voilà. Mais au niveau effectivement de l'ensemble des collègues, on considère pas que c'est terminé et on espère que effectivement on retrouve ce qui, parce que finalement la situation elle s'est encore plus dégradée. On a commencé il y a 4 ans le prix des carburants, puisque ça a été un des éléments déclencheurs, et vous voyez aujourd'hui et c'est pas encore fini, parce que les réductions qu'ils maintiennent actuellement en fin d'année elles devraient disparaître, donc voilà.
Christine, un mot là-dessus sur il est où le mouvement des gilets jaunes aujourd'hui qui n'est pas mort?
Ben, il est partout, justement, parce qu'en fait, on a tous un gilet jaune en nous. Ça, j'y crois fermement. Tout le monde s'y retrouve un petit peu. C'est vraiment quelque chose qui est tellement large que tout le monde peut, à un moment donné, y trouver quelque chose, voilà, à faire. Et pourquoi il y en a certains qui se voient et d'autres qui se voient pas. Donc, enfin, c'est la question un petit peu que j'ai intégrée. Je pense que les groupes qui perdurent et qui sont visibles aujourd'hui, ce sont ceux qui sont encore capables d'un mouvement dans l'action.
Voilà. De faire des choses, de pas
de
être que dans
des choses,
la discussion.
Parce que, et de ne pas être que dans la réflexion. Ouais. Parce que moi j'étais persuadé dès le départ qu'il fallait qu'on structure et qu'on arrive à poser sur papier ce monde qu'on réclame finalement, mais c'est tellement long. 4 ans, c'est extrêmement long. On perd des gens en route parce qu'à un moment donné, il faut des victoires. Et chaque petite victoire permet justement de faire perdurer un groupe. Voilà, au sens du nous.
Alors il y a plein de questions, de sujets qui sont abordés pendant ces 2 jours de colloque. Il y en a un sur lequel on voulait revenir avec toi, François Richard, qui alors le programme te présente comme historien sur l'histoire des Gilets jaunes. T'es aussi ancien ou encore actuel syndicaliste du côté de la FSU. Bonjour à toi. Je sais pas comment tu te présentes du coup toi.
Oui, non, c'est une erreur. Je ne suis pas du tout historien. Je suis géographe, mais c'est pas grave. J'étais prof d'histoire géo, donc.
Okay.
Et sinon, oui, j'étais ancien secrétaire de la FSU 33 et
notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes.
Le mouvement des Gilets jaunes.
Et donc
notamment.
Tu vas intervenir sur la question de la convergence entre le mouvement des Gilets jaunes et les syndicats, question qui a amené pas mal de frictions à l'époque, on s'en souvient. Alors, il y aurait plein de choses à dire, mais peut-être qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, 4 ans après, de cette question et de la manière dont le mouvement des Gilets jaunes est venu percuter le syndicalisme sur le moment, voilà, à poser plein de questions. 4 ans après, est-ce que ces questions, elles sont toujours là? Est-ce qu'il y a des réponses qui ont été apportées? Et est-ce que ça a avancé, François?
Pas assez, de mon point de vue. Ça n'a pas avancé assez, de mon point de vue. Effectivement, la percussion a été énorme. Parce que pour la première fois, le syndicalisme installé en France depuis la fin du 19e siècle, et qui a eu ses heures de gloire au lendemain de la Libération, pendant les Trente Glorieuses, mais qui était déjà bien affaibli depuis une quarantaine d'années, depuis les années 80 en particulier, le syndicalisme, je pense, n'a pas pris la mesure de l'importance de ce qu'a été ce mouvement social des Gilets jaunes et que beaucoup des... là, je diffère peut-être un peu de la camarade qui m'a précédé, de Christine. Je pense que beaucoup de gens ont été victimes des stéréotypes des médias vis-à-vis des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, tout le monde porte un gilet jaune dans son cœur, moi je le porte, mais beaucoup de mes collègues à l'époque, maintenant je suis retraité, j'étais encore en poste, beaucoup de mes collègues en salle des profs voyaient les Gilets jaunes avec le stéréotype de gens type beauf, type analphabète, violent. Donc, je n'avais de cesse. Moi, j'arrivais avec un gilet jaune dans mon lycée. Ils me voyaient, moi, effectivement, j'étais pas un analphabète, défendre les gilets jaunes. Mais ça a été, je pense, pour beaucoup, dans la réticence des syndicats.
Y compris dans le cadre chez les syndicats, il y a des gens qui avaient ces stéréotypes-là en tête quand ils voyaient des gilets jaunes.
Exactement. Et alors, je pense qu'il y a eu aussi une autre chose, c'est que ce mouvement syndical affaibli à la suite de défaites importantes. La dernière grande victoire, c'était 1995, où on a fait reculer la réforme Juppé. Mais après, on a eu les défaites de 2003, de 2010 sur les retraites. Et puis, de 2018, juste avant les Gilets jaunes, la défaite de la grande grève du rail, qui était pourtant spectaculaire. Donc, le syndicalisme n'a pas été capable de tordre le bras à ce néolibéralisme qui casse le compromis social qui était celui de la France depuis la Libération.
Et ça explique que les Gilets jaunes ne soient pas forcément allés vers les syndicats.
Exactement, les Gilets jaunes ont senti, la population a senti cette faiblesse du syndicalisme. Mmh. En plus, effectivement, les Gilets jaunes représentaient peut-être une population qui était peu touchée par les syndicats, notamment dans ce qu'on appelait cette France périphérique, où les syndicats sont pas forcément très présents. Et le syndicalisme, les directions syndicales en tout cas, ont vu ça comme une sorte de concurrence. Mmh. Sur la lutte sociale, et d'autre part un mouvement qui était peu contrôlable. Donc il y a eu une sorte de rendez-vous manqué, c'est très dommage, très très dommage, parce que bien sûr qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin si on avait été ensemble depuis le début.
Alors moi, qu'est-ce qui aurait pu être fait et qu'est-ce que...
Alors moi, j'ai milité depuis le début pour qu'on aille dans ce mouvement, qu'on aille avec eux. Mmh. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Bordeaux le 1er décembre, l'acte 3. On avait une manifestation syndicale qui venait de la victoire. Et par des coups de fil répétés, je me suis débrouillé pour que on converge avec la manifestation des gilets jaunes. C'était très intéressant de voir que les forces de police nous retardaient pour qu'on ne puisse pas converger. Et on a convergé. Sauf que quand on est arrivé devant la mairie, les incidents ont commencé, puisque les forces de l'ordre protégeaient bizarrement et surarmaient la mairie. Et à ce moment-là, le camion de la CGT a dit « les travailleurs continuent ». J'ai continué quelques mètres avec les travailleurs, mais au bout d'un moment, je suis revenu et j'ai été pris à partie par des gilets jaunes qui m'ont dit « mais vous nous lâchez, qu'est-ce que c'est que ça ?» vous laissez la police attaquer comme ça et vous continuez une manifestation, vous servez à rien, vous faites partie du système. C'est-à-dire qu'il y a eu ce rendez-vous manqué, c'était un double stéréotype en miroir qui a empêché effectivement une vraie convergence. Par contre, dans les semaines qui ont suivi, c'était très clair que les gilets jaunes, c'était pas un nouveau poujadisme, c'était pas l'extrême droite, c'était exactement les mêmes plateformes revendicatives que nous, et surtout, ils cherchaient à construire pas simplement un mouvement social, mais aussi un mouvement politique. Ils cherchaient à rénover aussi la démocratie. Et donc, beaucoup de syndicalistes sont venus. Beaucoup de gens de la FSU, beaucoup de gens de la CGT. On a participé à beaucoup de ces manifestations. On a pris plein de gaz lacrymogènes. Et donc, il y a eu une convergence de fait, même si elle n'a pas été au niveau des directions syndicales. Alors, je suis peut-être un peu long, mais pour finir, en quoi ça n'a pas avancé beaucoup depuis ? Je pense qu'on a été percuté par ce mouvement aussi sur son efficacité. C'est-à-dire que pour une fois, on avait des manifestations qui faisaient peur au pouvoir. Pas ces manifestations où on sait que, bon, même s'il y en a 10 000, le lendemain, on refermera le chapitre. Et je crois que ça a permis, par exemple, dans la lutte contre les décrets Blanquer, et notamment sur ce qu'on a appelé les E3C en janvier 2020, ça a permis,
c'est
par exemple,
les épreuves anticipées du bac, c'est ça ?
C'est les épreuves anticipées du bac, voilà, qui étaient scandaleusement organisées. Il y a eu des luttes beaucoup plus radicales, et d'ailleurs, on en paie les frais, puisque beaucoup de profs sont victimes aujourd'hui d'une répression parce qu'ils ont participé à des blocages de lycée. On a muré, par exemple, ici à Bordeaux, le rectorat, avec des camarades de la CNT le matin, tôt le matin, qui sont venus faire un mur avec des parpaings, c'était des choses inenvisageables pour le SNES ou pour d'autres syndicats auparavant. Et je crois que les gilets jaunes nous ont montré qu'une certaine radicalité était nécessaire. Et j'espère qu'on va en tirer les leçons dans les luttes qui vont venir d'ici peu.
Donc rendez-vous manqué, mais il y a quand même des traces et il en restera quelque chose. Merci beaucoup François Richard. Nos amis gilets jaunes, André, Christine ont des choses à dire, à réagir là-dessus. André ?
Oui, moi j'ai été pendant 53 ans à la CGT. Quand je suis arrivé sur le rond-point, les gens le savaient. Effectivement, moi ce que j'ai dit... J'étais à la CGT, mais j'étais là en tant que citoyen, en tant que gilet jaune, et que si éventuellement, au niveau des syndicats, quels qu'ils soient, s'ils venaient là pour essayer de récupérer notre mouvement, j'y serais le premier à leur, m'excusez le terme, à leur botter le cul, parce que le gilet jaune, on était un mouvement qui était rassembleur. Il y avait des gens de droite, il y avait des gens de gauche, on s'en foutait. Au niveau... des opinions, quelles qu'ils soient politiques ou autres, ou religieux, on n'a pas fait la moindre différence. Donc,
et qui pouvaient rassembler, y compris les syndicats.
Absolument, absolument. Bon, moi je fais la différence entre les syndicats et les syndiqués. Parce que finalement, les syndiqués, à la base, effectivement, le combat est le même au niveau dans les entreprises, dans les boîtes, mais on s'est bien rendu compte que c'était là-haut que ça freinait. Voilà. Donc personnellement, tout en étant syndiqué, c'est mon opinion. Et il était partagé par bon nombre, effectivement, de gilets jaunes et de syndiqués.
On parle de convergence gilets jaunes syndicalistes et syndicalisme. Il y a une autre convergence, c'est celle des gilets jaunes et des universitaires qu'on voit aujourd'hui avec ce colloque. Là-dessus, comment ça se passe, les échanges, les manières de faire des uns des autres? Est-ce que vous trouvez de l'intérêt, de la richesse à ces échanges qu'est-ce que vous en tirez, vous, en tant que gilet jaune, Christine?
Les universitaires, ils étaient là depuis le début quand même. Hein. Ils nous ont accompagnés dès le départ. Dès les premiers jours sur le rond-point, il y avait Pedro qui était là pour une étude sociologique qui a fait le tour des ronds-points, qui était dévolue à ça. Magali, c'est pareil. Hein. On l'a eu en contact très très tôt. Il y avait pas mal d'universitaires qui étaient sur les manifestations hein, et qui parlaient justement des comparatifs avec d'anciennes manifestations, ce qu'on avait de différent, ce qui était impalpable, donc c'était intéressant. Là aujourd'hui, ce que je trouve bien, et en même temps c'est parfois un petit peu réducteur ce qu'on peut entendre hein, depuis hier, il manque des choses, on aurait besoin de parler, reparler,
il faudrait au moins une semaine voire
oui
plus.
Voilà, de tout débattre, c'est tellement dense et condensé et on n'est pas toujours d'accord non plus avec les résultats ou on ne les comprend pas, mais je crois que le principal intérêt avec les universitaires, c'est que ça donne une légitimité et une vérité qui pourra être visible quelque part. Voilà, et qui va bien au-delà de ce qu'on a pu écrire nous sur les réseaux ou diffuser, puisqu'en fait c'était tellement fouillis. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est lisible par l'ensemble du monde et tous ces gens justement qui ont rejeté à un moment donné ce mouvement par incompréhension, ça peut quand même apporter quelque chose de très très bon et justement semer des graines peut-être pour redémarrer.
André, un mot là-dessus?
Oui, il y avait les facs qui étaient occupées aussi, donc nous y étions. Moi, je me souviens avec les collègues, on avait fait une manifestation donc l'après-midi sur Bordeaux. On a passé toute la nuit à discuter avec les gens qui étaient à la fac, et le lendemain, on a repris. On n'a pas dormi de la nuit. On a repris la manif le lendemain qu'il y avait sur Bordeaux. Ouais. Donc effectivement, et c'est pas nouveau qu'il y avait cette convergence. Après, effectivement, ça s'est estompé au niveau des facs et on a peut-être moins vu effectivement. Bon, ce qui est dommage. Parce que finalement, moi, 75 balais, je suis dans la rue depuis 4 ans, mais je ne suis pas là pour défendre ma cause. Moi, elle est derrière moi. Mais on est là pour les jeunes, et on continue pour les jeunes. Et ce qui est dommage, effectivement, c'est le peu de jeunes qui est, parce que finalement, l'addition, c'est eux qui vont la payer encore plus que nous.
Un tout dernier mot peut-être pour revenir à aujourd'hui. On voit que la situation concrète aujourd'hui, elle s'est pas arrangée. Il y a l'inflation, etc. Les conditions s'empirent même. Qu'est-ce qui manque pour que ça reparte?
Attends, désolée pour ne pas répondre à ta question, je voulais rajouter quelque chose. Là, tout à l'heure, les universitaires, je pensais aux profs et aux chercheurs. Et effectivement, par rapport aux jeunes, il faut quand même savoir qu'au tout début du mouvement, dans la mesure où on était transgénérationnel, il y avait des jeunes qui avaient monté le GJJ, les Gilets jaunes jeunes, et c'était à l'époque, donc dans les 15 premiers jours, rapproché de l'université et des étudiants. Pour essayer de faire quelque chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qui manquerait pour que ça reparte?
Ça ou autre chose d'ailleurs, mais qu'un mouvement en tout cas reparte?
Je pense que le mouvement est là, déjà, ça c'est clair. Que ça reparte dans la rue, tu veux dire? Une structure lisible, pas une représentation. Attention, on ne parle pas de représentation. C'est l'idée qui fait descendre les gens dans la rue. Une idée commune, l'objectif commun, c'est ça qui fait descendre. Et on peut faire tout ce qu'on veut, faire des appels, etc. Si l'idée ne fait pas sens commun, ça ne descendra pas. Voilà, c'est tout. L'idée commune qui émergera comme ça, mais qui est pas très loin finalement.
Très bien. Un dernier mot, André, ou... Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler dans cette émission spécial en direct du musée d'Aquitaine. J'essaye de lancer mon jingle, mais il ne marche pas, c'est pas grave. On était donc en direct pour ce colloque, cette deuxième journée du colloque Gilets jaunes de la valse des ronds-points au cahier de la colère. On aura bien sûr des enregistrements de tout ça qu'on diffusera sur notre antenne, sans doute en partie dans l'émission Histoire de voir, Histoire au pluriel de Jean-Pierre. La suite, c'est donc pour vous de venir, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, assister à ces discussions cet après-midi, ce soir à la librairie N'a qu'un œil. La suite des programmes sur notre antenne, c'est tout de suite la rediffusion d'Acétone. À 17h, l'émission Lumière, Lumière. À 18h, la 9e case.